Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Le sommaire. Des cas de mortalité infantile dus à l'anémie et à la malnutrition aiguë enregistrés à Nizi dans l'Ituri, ce en l'espace de 2 semaines. Situation consécutive au retrait de l'ONG internationale Médecins sans frontières à cause de l'insécurité. Les autorités locales plaident pour le retour de MSF dans cette région. Nimito Salité, cette chanson du groupe MPR est interdite de diffusion dans tout le pays. Décision de la Commission nationale de censure, il est reproché à ce groupe de n'avoir pas présenté le clip vidéo avant toute diffusion au public. Et puis, vaccination préventive contre la fièvre jaune dans l'Équateur. La première phase de 10 jours vient de s'achever, mais que retenir de cette campagne? Réponse avec notre invité, le docteur Jean-Robert Isanjola, chef d'antenne du programme élargi de vaccination PEV Mbandaka. Madame, Messieurs, bonjour. Santé pour commencer. En Ituri, 11 cas de mortalité infantile dus à l'anémie et à la malnutrition aiguë sont enregistrés en l'espace de 2 semaines. Cela dans 3 aires de santé de Nizi, environ 30 km de Bunia, territoire de Djougou. Cette situation est consécutive au retrait de l'ONG internationale Médecins sans frontières, MSF de Djougou, à cause de l'insécurité, la société civile locale et les autorités sanitaires qui redoutent le pire, surtout pour les déplacés, plaident pour le retour de MSF dans cette région. Ézéchiel Mouzalia.
Les derniers cas de décès ont été enregistrés mardi à Iga Barrière. Il s'agit des 3 enfants âgés de 0 à 5 ans, affirme le président de la société civile locale. Dino Gédéon précise que plusieurs enfants et même certains adultes souffrent de malnutrition dans 3 aires de santé où sont concentrés des milliers de déplacés qui ont fui les atrocités de la milice Codeco. Ces derniers font face à une crise alimentaire depuis le retrait de l'ONG Médecins sans frontières MSF qui intervenait notamment pour la prise en charge de certaines maladies et de la malnutrition, dit nos Gédéons.
Avec l'MSF, il y avait la réussite pour nos enfants de 0 à 5 ans. Mais après le départ de l'MSF, nous avons constaté la mort de nos enfants. Que ce l'MSF revienne, nous allons les sécuriser jusqu'à notre dernier MRI.
De son côté, le médecin chef des zones de santé de Nizi déclare qu'une équipe médicale est déployée sur place pour des interventions d'urgence. Jean-Claude Lonzama.
Il y a eu un afflux de déplacés qui sont venus de partout. Donc ça nécessite quand même beaucoup d'assurer la sécurité à tous pour que les gens travaillent dans une position qui est plus confortable.
Contacté, le chargé des communications de MSF promet de réagir dans les prochains jours. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, la protection civile plaide pour le rétablissement de la sécurité dans la zone des Ringeti pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire en faveur des nombreuses familles qui y ont trouvé refuge ces dernières semaines. Le coordonnateur de cette structure fait savoir que ces personnes qui viennent de plusieurs localités de l'Ituri vivent dans des conditions difficiles et ont urgemment besoin d'une assistance. Des précisions avec Marc Marofimbo.
Ils sont plus de 300 ménages de déplacés venus de Komanda, Otmaber, Luna, Ndalia, Katabei et Kabriké en province de l'Ituri, ayant trouvé refuge dans la localité de Ringeti en territoire de Beni, à la limite entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces derniers sont majoritairement des femmes, des enfants et des personnes de troisième âge hébergées dans des églises et dans les écoles. Ils mangent difficilement, l'état de lieu hygiénique et sanitaire catastrophique, indique la société civile de Ringeti. Vu cette situation, la protection civile en territoire de Beni plaide pour le rétablissement de la paix dans la région où ces derniers ont trouvé abri afin que les humanitaires aient accès pour leur venir en aide. Jean-Paul Capitula est son coordonnateur.
Là, nous allons aussi supplier les autorités militaires. On ne peut pas faire une intervention dans une zone insécurisée parce qu'il ne faut pas que l'assistance insécurise davantage les personnes bénéficiaires. Parce que les humanitaires vont passer par où et ces personnes qui vont être bénéficiaires ne seront-elles pas une cible de l'ennemi pour chercher à se ravitailler à manger?
C'est depuis plus de 2 semaines maintenant que les vagues de déplacés sont observées dans cette région. Les familles d'accueil sont également débordées, indique Jean-Paul Capitula, qui craint que cette situation arrive pendant ces temps où la ville et territoire de Beni font face à la maladie, à virus Ebola ainsi que le coronavirus. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu. Le réseau pour les droits de l'homme alerte les autorités sur l'irrégularité de la détention de plusieurs personnes à la prison centrale de Lubero depuis l'instauration de l'état de siège. Il signale aussi les mauvaises conditions de vie des détenus dans cette prison. Dans un rapport de monitoring rendu public hier à Butembo, cette organisation de défense des droits de l'homme fait savoir que les dossiers de ces détenus ne sont pas instruits au parquet, faute des magistrats militaires dans cette zone. Grâce Hamzati nous en parle.
Les rédos dit avoir répertorié 34 détenus, dont 4 mineurs, dont les dossiers traînent au parquet civil qui, selon l'organisation, ne sont pas autorisés d'instruire du fait de la proclamation de l'état de siège. L'ONG parle des détentions irrégulières. En outre, les rédos déplorent les conditions de vie de ces détenus à la prison centrale de Lubero. Mwindo Asivinwa, coordonnateur de l'organisation, explique.
Dans le territoire de Lubero, il n'y a aucun magistrat militaire, que ce soit du niveau des tribunaux, que même des parquets militaires. Des détenus à la prison de Lubero sont dans l'irrégularité, à part les 5 condamnés par rapport à la restauration. Le cas que nous avions trouvé à Lubero est que la petite somme qu'on avait envoyée avant s'est épuisée il y a plus d'un mois. Tous ces mois ici, les détenus vivent, c'est par grâce par les dos des personnes de bonne volonté. Il y en a quelques religieux qui mobilisent les chrétiens à secourir les détenus. Sinon, notre souci était que si le gouvernement pouvait aussi augmenter tant soit peu l'enveloppe qu'il a toujours débloquée pour nourrir les détenus. L'autre difficulté est que au niveau de la prison de Lubero, il y a justement un personnel soignant, un médecin, des infirmiers, mais malheureusement, ils sont sans médicaments.
Dans le même rapport, les rédos félicitent la MONUSCO qui est en train de réhabiliter cette prison en construisant notamment un bâtiment pouvant abriter des cellules pour les femmes. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Nord Kivu toujours. Deux jours après l'attaque des rebelles du M23 à Tchanzu dans le territoire de Rutshuru, la situation socio-économique a quasiment repris son cours normal dans l'agglomération de Bunagana et environ, et la population déplacée est rentrée à 80% dans le groupement de Djomba. Cependant, les événements de dimanche à lundi dernier à Tchanzu n'ont pas laissé la ville de Goma indifférente. Un dispositif sécuritaire non habituel s'observe au chef-lieu du Nord Kivu depuis cette attaque. Sipamaguru nous décrit la situation.
D'abord, à Bunagana, les autorités administratives et coutumières affirment que la majorité de la population a regagné ces villages dans le groupement de Djomba. Ces habitants essayent de reprendre leurs activités tout en constatant les pertes et autres dégâts enregistrés lors de leur fuite lundi dernier. Pour le président de la société civile de Djomba, Damien Sebusanane, bien que la population soit rentrée, les autorités doivent renforcer les mesures de sécurité dans cette région parce que l'ennemi n'est pas trop loin. Pendant ces temps, dans la ville de Goma, une psychose s'observe, surtout à des heures du soir, depuis cette attaque du M23 à Tchanzu. Non seulement les sujets occupent toutes les conversations, des réactions fusent de partout dans les cercles sociopolitiques, mais surtout les déploiements peu habituels des agents de sécurité dans tous les coins stratégiques, ainsi que les patrouilles toute la nuit. Goma, Sifamaguru, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, la chanson Ninito Salité du groupe musique populaire de la révolution MPR est interdite de diffusion sur les chaînes de télévision, les stations de radio, des écrans géants et sur toutes les autres formes et moyens de communication installés sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. La Commission nationale de censure des chansons et des spectacles a pris cette décision mardi. Il est reproché à ce groupe la violation des dispositions des articles 2, 5 et 13 du décret numéro 003 du 21 février 1996 portant création de la Commission nationale des censures pour n'avoir pas présenté le clip vidéo avant toute diffusion au public. Les mêmes faits sont également reprochés à l'artiste musicien Bob Elvis, dont les 6 clips sont interdits de diffusion, y compris la chanson « Lettre à Yachichi ». Les détails avec vous, Alain Rungmushinj.
Nini Tosalité ou que n'avons-nous pas fait est le titre du duo des artistes Yuma Dash et Zozo Machine. Avec plus de 800 000 vues sur YouTube 4 jours après sa sortie, la chanson interpelle les dirigeants du pays 61 ans après l'indépendance. Ce titre relate les conditions difficiles de la vie d'un Congolais qui s'adresse à son dirigeant. Quant à Lettre à Yachichi, Bob Elvis commence son opus par l'octroi des véhicules 4x4 aux députés nationaux. Le clip montre l'artiste devant un cercueil entouré de bougies faisant rapport à Étienne Tshisekedi. Tshisekedi, dont l'effigie est visible. L'opposant Étienne est le papa de l'actuel président Félix Tshisekedi. Selon l'esprit de la chanson, le slogan « Le peuple d'abord » du parti au pouvoir n'est pas respecté. Mais que reproche la Commission nationale de censure à ces deux chansons? Didi Kelo-Kelo, son directeur, explique.
Les chansons ne sont pas censurées. Dans la décision portant interdiction, tu demandes à ce que les artistes déposent au préalable le support à la Commission avant leur diffusion au public ou à l'intention du public. C'est la loi. Ils n'ont rien à voir avec le message.
Le directeur de la Commission nationale de censure indique que la mesure d'interdiction des diffusions de ces chansons pourrait être levée dans les heures qui suivent, dès que les artistes ou leurs représentants se seront présentés pour respecter la procédure.
Signalons que l'interdiction de ces deux chansons par la Commission nationale des censures a suscité plusieurs réactions, tant dans la classe politique que sociale congolaise. Direction la province de la Tshopo. 19 écoles secondaires ont reçu hier du matériel de laboratoire. Il s'agit des écoles publiques et conventionnées qui organisent la section scientifique, option biochimie. La remise officielle de ces kits aux responsables ciblés est intervenue hier au ministère provincial de l'EPST, Jacques Moukonkolé. Reportage.
Les bénéficiaires de ces kits de laboratoire de chimie sont des écoles publiques et conventionnées. Au total, 19 établissements ont reçu chacun 3 coffrets de matériel destinés aux laboratoires de chimie générale, chimie organique et chimie minérale. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence de l'enseignement au niveau secondaire, PECPESU en sigle, a indiqué le directeur de la province éducationnelle Tshopo 1. Précisant par ailleurs les critères de sélection des écoles bénéficiaires, Narcisse Moukekwakachale a déclaré que ces dernières sont notamment celles dont les enseignants ont été formés selon la nouvelle approche dans le domaine des sciences. Pour sa part, le ministre provincial en charge de l'EPST, Georges Lomali Samondé, a exhorté les responsables des écoles bénéficiaires à une gestion rationnelle de ce matériel pour le bien des générations aussi bien présentes que futures. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir à Massimanimba. Nous sommes dans la province du Kwilu. Ici, nous apprenons que des sauterelles ravagent des cultures vivrières dans des champs des populations. Selon l'administrateur de ce territoire qui alerte, cette situation persiste sans solution malgré toutes les manœuvres tentées localement. Jean Bosco Mukubidi sollicite l'intervention du gouvernement tant provincial que national. Le point de la situation avec Irène Boma.
L'administrateur du territoire de Massimanimba précise que cette réalité malheureuse se produit précisément dans le secteur de Bindungi vers le village Mosambo. À l'en croire, des champs de paisibles citoyens sont ravagés par des sauterelles qui attaquent toutes sortes de cultures. Jean Bosco Mukubidi redoute la famine qui, selon lui, pourra surgir dans cette partie du Kwilu dans les tout prochains jours.
Il y a des sauterelles qui ravagent toute culture, quelle que soit la nature, les cultures vivrières. Ça commence par les feuilles jusqu'à l'écorce, ça risque d'amener la disette dans ces côtés-là. C'est vraiment difficile.
Cette autorité territoriale sollicite l'intervention du gouvernement tant provincial que national pour mettre fin à cette situation.
Nous voulons que le gouvernement puisse intervenir rapidement pour amener si possible les insecticides parce qu'avec le feu, on a essayé de fumifier. Ça n'arrange toujours pas. Alors là, nous ne savons pas ce que nous devons faire. C'est pour cela que j'appelle le gouvernement d'intervenir pour sauver cette partie de la population. On avait déjà commencé à écrire, on parlait partout, mais personne ne vient en aide.
Il sied de noter que cela fait déjà près de 6 mois que cette situation persiste dans cette contrée, a signalé Jean Bosco Mukubidi. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Kasaï Oriental, signalant la hausse de prix de maïs sur le marché de Mbujimayi, la mesurette de 3,5 kg de maïs qui coûtait 2500 francs se vend actuellement à 3500 voire 4 000 francs congolais. En cause, certaines marchandes parlent de rareté de maïs sur le marché et des agronomes, eux, lient cette hausse à la période de semailles. Explication, Esther Dalafina.
Au marché maréchal où les femmes marchandes s'approvisionnent régulièrement, la mesurette de maïs qui se vendait la semaine dernière à 2500 francs congolais revient actuellement à 3500 francs comme nous le confirme ici Cécile Kankolongo. J'ai acheté le maïs à maréchal à 3300. La mesurette n'était même pas bien remplie. Le maïs a vraiment haussé de prix. Pour d'autres ménagères, cette hausse a perturbé le budget de la famille Godlive Sambi.
Si tu achètes aujourd'hui 3500 et tu trouves que demain ça va baisser, on préfère maintenant acheter chaque jour la farine.
Dominique Ilunga, directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo FEC Kasaï Oriental, déplore cette hausse pendant cette période où un lot important de maïs de Kanyama Kasese est en vente en Bujimai.
Ça ne devrait pas se justifier dans la mesure où nous avons le service national qui a amené des tonnes de maïs sur le marché qui se vendent à moindre prix. Et puis les gens s'approvisionnent facilement aussi.
Certains agronomes attribuent cette hausse à la période des semailles pour la saison culturelle A. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Niger. Après l'incendie qui a coûté la mort à au moins 26 écoliers à Maradi le lundi, hier, les corps de plus de 20 enfants ont été enterrés, couverts du drapeau du Niger. Je vous rappelle que le lundi, 3 salles de classe faites de paille ont été consumées par le feu dans une école maternelle et primaire. Les victimes avaient entre 3 et 8 ans, tandis que des dizaines d'autres ont été gravement blessées. Un incendie semblable à celui-ci avait donné la mort à une vingtaine d'écoliers en avril dernier. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause immédiate de l'incendie. Le drame a provoqué la colère des parents et des enseignants. Le lundi, un conseil des ministres a décidé l'interdiction des classes en paille pour enfants du préscolaire au Niger.
L'invité.
La province de l'Équateur est en campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune. La première phase de 10 jours destinée aux 3 zones de santé urbaine de Mbandaka vient de s'achever, suivie de quelques jours de ratissage. Mais quel bilan retenir de cette vaccination à dose unique pour toute la vie? Réponse avec notre invité, le docteur Jean-Robert Issanjola, chef d'antenne du programme élargi de vaccination PEV Mbandaka. Il s'entretient avec Paul Richard Malengela.
Docteur Jean-Robert Sandula, bonjour.
Bonjour.
Quel est le bilan de cette campagne de vaccination préventive pour l'antenne de Mbandaka et du ratissage en cours?
Nous venons de mener la campagne préventive contre la fièvre jaune dans notre division provinciale de la santé, qui compte 18 zones de santé. Nous avons commencé avec les 3 zones de santé de la ville, pour lesquelles la campagne normalement est terminée il y a 2 jours, mais nous sommes en train de continuer avec les ratissages jusqu'à dimanche, où nous allons récupérer les retardataires. Au sortir des cultes, tout ça, nous allons les vacciner.
Quelle était la population cible?
Nous avions eu une cible dans la ville de Mbandaka aux alentours de 570 000 habitants attendus pour cette vaccination. Nous sommes très contents du fait que la population a adhéré, n'est-ce pas, à cette activité et elle s'est fait réellement vacciner. Nous avons déjà dépassé le seuil de 97% des vaccinés dans la ville de Mbandaka. Nous demandons à tous ceux-là qui retardaient encore les pas à venir se faire vacciner dans nos sites. Nous ne sommes pas la seule province. Les autres provinces vont nous suivre. C'est-à-dire que c'est pour toute la République. L'État a pris l'option de protéger sa population contre cette maladie en vaccinant 92,6% de la population. C'est-à-dire à partir des enfants de 9 mois jusqu'aux adultes de 60 ans. Nous voudrions que tout le monde ait son vaccin pour se protéger pour toute la vie.
Pourquoi cette vaccination préventive alors qu'il n'y a pas eu une certaine épidémie ou beaucoup de cas déclarés de la fièvre jaune dans la province?
Notre pays est vulnérable par rapport à cette maladie qui n'a pas de médicaments. Nous avons connu des cas d'épidémie dans la ville de Kinshasa, dans la province de Congo central, province de Kwilu, chez nos voisins ici du Grand Équateur, la Tchouapa, ainsi que les Bazouélé dans la grande province orientale. Donc nous sommes en train de vivre pratiquement le même environnement. Et nous sommes, nous, Équateur, également vulnérables par rapport à cette maladie. C'est pourquoi notre gouvernement a prévu la vaccination à grande échelle.
Nous avons constaté qu'à chaque fois qu'on vaccine quelqu'un, on lui remet une carte jaune. À quoi sert cette carte?
Mais c'est une carte qui prouve que la personne a été vaccinée. Et c'est une carte à bien protéger, puisqu'elle vaut pour toute la vie. Cette carte est là.
Alors que pour les autres vaccinations, on ne remet pas de carte.
Mais la vaccination contre la fièvre jaune, c'est une vaccination qui est obligatoire dans toutes les frontières. Pour aller d'un pays à un autre, on oblige les gens qui ont fait l'Europe, qui ont fait les autres pays africains, ils trimballent leur carte dans leur poche. Donc, la carte est là et obligatoire. Donc, ça nous sert déjà pour les déplacements de la RDC vers les autres pays. Une fois vous montrer la carte, on est rassuré que vous avez été vacciné contre la fièvre jaune et vous avez votre laissez-passer pour les mouvements que vous voulez.
Tout à l'heure, vous avez dit que la maladie n'a pas encore de médicaments, mais comment peut-on arriver à avoir un vaccin sans qu'on ait d'abord le médicament pour telle maladie.
Cette maladie n'a pas de médicaments, certes. Il y a un protocole de prise en charge qui a été mis par le gouvernement de la RDC à travers le ministère de la Santé. Il y a un protocole de prise en charge. Mais alors, il n'y a pas un traitement curatif par rapport à cela. Mais alors, nous avons la chance d'avoir le vaccin qui a été introduit dans notre pays depuis 2003. Depuis 2003, nous vaccinons nos enfants dans nos centres de santé. Nous vaccinons contre la fièvre jaune en leur administrant le vaccin anti-amarile, donc le vaccin contre la fièvre jaune. Donc, comme nous avons déjà un vaccin et que nous nous sommes fait vacciner, maintenant là, on est rassuré de ne plus faire la maladie. Même si on entre en contact avec le virus ne va plus entraîner des problèmes extrêmement compliqués dans la santé. Donc, puisque l'immunité est déjà aguerrie et elle sera à combattre puis pour préserver notre santé.
Avec ce vaccin anti-fièvre jaune, n'a-t-il pas une deuxième, une troisième dose?
L'unique dose là suffit. Ça suffit amplement pour nous protéger pour toute la vie.
Docteur Jean-Robert Sanjola, merci.
Voilà, c'était là notre invité, le chef d'antenne du programme élargi de vaccination PEV Mbandaka, Docteur Isanjola, s'entretenait avec Paul-Richard Malengela. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Romouchinj, coordination de Noëlla Luzitu-Kabambi, à la technique Alain Goy et devant ce micro, Belinda Bosuma. Retrouvez ce journal sur notre site www.radiocapi.net. Merci.